sera, on la sera.
Nous sommes là, nous serons là. On l'a été pour contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et on le sera contre le projet d'Amazon. Merci.
Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde.
Autre monde, autre monde, autre zone. Un écho des luttes à retrouver tous les deux mois sur Jet FM.
On n'avait pas la CBA papa, SDF chômeur ouvrier, paysan immigré.
Une émission proposée par Attaque 44 pour mieux comprendre les luttes du local à l'international.
C'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien.
Autre monde,
autre zone.
Autre zone.
Bonjour à toutes et à tous, nous nous trouvons actuellement dans les studios de Jet FM pour réaliser un nouvel épisode de notre émission Autres ondes, autre monde. On remercie d'ailleurs Jet FM pour leur accueil, c'est une première pour nous dans ces studios, donc pour cette émission qui a été préparée par Attaque 44 et en l'occurrence Agnès, Pierre et moi-même Manon qui seraient en régie. Et je laisse maintenant la parole à Agnès qui va vous présenter un peu plus le sujet de l'émission d'aujourd'hui.
Merci Manon. Aujourd'hui donc une émission proposée sur les monnaies locales dans le cadre de la finance solidaire et à l'occasion de deux événements, un le lundi 20 novembre et un le mercredi 22 novembre de 18h30 à 22h. Le lundi, salle de l'égalité à Nantes et le mercredi, à la chapelle des Ursulines à Ancenis. C'est la troisième année que nous co-organisons un événement annuel sur la finance solidaire et avec Moneco, monnaie locale et citoyenne de Loire-Atlantique, les Cigales, association pour la promotion de la finance solidaire, la NEF, coopérative bancaire citoyenne, la JUNE, monnaie libre, et le réseau ESS, économie sociale et solidaire d'Ancenis. À cela, il faut ajouter deux partenariats, celui avec Scopelli, coopérative alimentaire, et celui avec Tête Haute, brasserie et bio. Cette émission va faire intervenir différents acteurs de la finance solidaire et la première partie de l'émission va être construite autour de six partenaires. Iban, qui représente la monnaie USCO, Christelle pour Moneco, Olivier pour Scopelli et Claire pour le curieux Coffee Shop.
Eh ben, merci beaucoup de m'accueillir dans votre émission. Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour.
Le USCO, oui, c'est une monnaie locale comme plus de 80 en France. Nous, on a commencé en 2013 à mettre les premiers USCO en circulation. Et voilà, on a fêté nos 10 ans cette année. Et puis après, pourquoi les USCO ? En fait, c'est un petit peu comme toutes les monnaies locales. On répond à plusieurs objectifs. Le premier, bien entendu, c'est la relocalisation de l'économie, puisqu'avec cette contrainte de circulation de l'EUSCO qui est d'être sur un territoire donné, à la différence d'un euro, l'EUSCO va circuler uniquement sur ce territoire, ne va pas sortir du territoire, et donc va rester dans l'économie locale, dynamiser l'économie locale, les circuits courts et forcément l'emploi local aussi. Après, il y a un autre intérêt qui est d'accélérer la transition écologique, puisqu'en développant les circuits courts, on évite d'aller se fournir dans des grandes distances, on évite les émissions de gaz à effet de serre liées au transport. Et il y a aussi une charte des professionnels qui interdit les pratiques écologiquement ou socialement irresponsables. Par exemple, pas d'agriculture industrielle, pas d'eau en batterie, on fait la promotion de, par exemple, l'agriculture paysanne locale et durable. Et il y a aussi un autre levier pour la transition écologique qui est le placement de tous les EUSCO qui sont changés en euros. Donc les euros qu'on reçoit, nous on les place dans deux banques éthiques qui sont la NEF et le Crédit Coopératif. Et donc ça veut dire que pour chaque EUSCO qui est mis en circulation donc dans l'économie locale, on a un euro qui sert à financer les projets à plus-value sociale et environnementale. Donc là, actuellement, on a 4 millions d'EUSCO en circulation. Donc ça veut dire qu'on a aussi 4 millions d'euros qui financent la transition écologique et sociale. Et après, on a deux particularités qui n'ont pas forcément toutes les autres monnaies. La première, c'est le 3% association. C'est un mécanisme de solidarité avec le milieu associatif local. Et c'est un don, en fait, une redistribution. Un don qui est fait par les... c'est pas les utilisateurs de la monnaie qui font ce don, mais c'est eux qui génèrent ce don-là. En fait, à chaque fois qu'un utilisateur rentre dans le réseau, il choisit une association du réseau à parrainer. On a à peu près 300 associations dans plein de domaines différents, environnement, solidarité, sport, culture, éducation, etc. Et donc, à partir du moment où une association a 30 parrains, eh bien, elle reçoit chaque année l'équivalent de 3% du change total de tous ses parrains. Et donc, ça peut faire des jolies sommes. Hein. On le remet une fois par an, ce don, ou à l'occasion d'un événement, la journée des assos de l'IUFCO. Et il y a des assos qui dépassent les 4000 IUFCO de dons. Donc, c'est sympa. Et là, on a donné cette année à peu près 70 000 IUFCO à une cinquantaine d'associations. Et le dernier intérêt à utiliser l'IUFCO, c'est parce qu'on fait on fait vivre la langue basque. Parce que bon, ça, c'est la petite particularité de notre territoire, d'avoir une langue riche et précieuse. Et toute notre communication est bilingue et on a des défis aux pros pour qu'ils puissent se saisir de cette langue basque. Voilà, j'essaie de respecter les 3 minutes. Juste pour finir, 2-3 chiffres, on a 1300 professionnels dans notre réseau et on a 4000 utilisateurs particuliers. Et ça fait 10 ans qu'on existe.
Merci Ben pour cette intervention très intéressante et puis pour placer un peu les enjeux. Maintenant, on va entendre Christelle qui va nous présenter Moneco et qui va compléter peut-être un petit peu ce que nous a dit Iban.
Iban, tu restes en ligne avec nous, bien sûr. On va rediscuter après ensemble.
À toi Christelle.
Oui, merci de l'invitation. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, moi je suis également engagée et investie dans le courant des monnaies sociales depuis plusieurs années et particulièrement au sein du réseau Moneco, une monnaie locale complémentaire qui circule sur le territoire de la Loire-Atlantique. On l'a dit complémentaire parce que l'objectif n'est pas de remplacer l'euro mais de pallier les faiblesses du système économique actuel qui engendre des inégalités sociales croissantes, favorise la démesure spéculative et ne fait pas face aux enjeux du dérèglement climatique. L'usage de la monnaie locale est simple, à parité avec l'euro. Un Moneco égale 1 euro, comme toutes les monnaies locales sur notre territoire. C'est un moyen de paiement local, éthique et légal depuis la loi Hamon en 2014 et qui propose 2 formats, comme le JCO, le paiement numérique, en téléchargeant l'application Moneco sur son application, un format coupon papier qu'il est possible de se procurer chez les professionnels identifiés comptoir Moneco, dont on retrouve la liste sur le site en ligne. Alors, historiquement, la pluralité des monnaies était plutôt courante. La monnaie unique est plutôt très récente dans l'histoire de la communauté. Et comme l'a noté Iban, l'objectif de cette monnaie complémentaire est à la rencontre de multiples enjeux d'éducation populaire, de solidarité écologique, économique et un véritable enjeu de dynamique territoriale. La force des réseaux de monnaie locale est l'un de ses défis et la diversité de ses membres et des parties prenantes qui réunit aujourd'hui des particuliers, des commerçants, des entreprises, des associations, des collectivités locales. C'est un outil de relocalisation de l'activité plus résiliente face aux crises en créant un maillage du réseau des acteurs locaux engagés. Nous avons toutes et tous un intérêt à approfondir ce sujet et favoriser de la monnaie locale. Si on veut donner quelques chiffres pour mettre en parallèle avec le JCO. Alors Moneco, c'est à la fois un jeune projet, mais vieux, puisque c'est la fusion de 2 monnaies locales qui existaient déjà sur notre territoire et qui est née en 2020. À ce jour, nous avons 500 particuliers et 200 professionnels sur le réseau qui offrent un panel d'activités très variées. Et nous avons actuellement à peu près 300 000 Moneco numériques en circulation depuis le début de l'année. Et ce sont plus de 900 000 Moneco qui ont été échangés depuis le début de l'année. Nous allons atteindre le million sur l'année, en fin d'année. Un grand pas, même si beaucoup reste encore à faire. Il y a tant de possibles et un cap atteint grâce à la forte mobilisation des bénévoles.
Merci Christelle. Merci. Pour ton intervention. Maintenant, Olivier, je vais te donner la parole pour nous présenter ce que vous faites à Scopelli.
Ça marche, bonjour. Donc moi je suis Olivier, je suis le co-président de Scopelli. Scopelli c'est un supermarché coopératif et participatif, donc c'est un supermarché qui appartient à ses clients. Et ce sont les clients qui font tourner le supermarché à raison de 3 heures par mois au minimum. On peut venir faire la caisse, le ménage, la comptabilité, les achats, tout ce qu'on peut imaginer. Ce qui est très important pour ce supermarché, c'est que toutes les décisions et tout le fonctionnement est vraiment aux mains des bénévoles. Les deux salariés sont des personnes qui nous aident, mais qui ne sont pas les personnes décisionnaires, contrairement à beaucoup de projets de ce type ailleurs en France. C'est un endroit où nous avons 2500 produits, 1000 mètres carrés. Nous organisons aussi des conférences, nous organisons des spectacles. Enfin, il y a plein de choses. Et Moneco, on y est depuis le début quasiment, puisque c'est vraiment pour nous, ça fait partie tout à fait de l'élan qu'on a. On doit à peu près nous échanger environ 100 000 Moneco, je crois, par an, ce qui est pas mal du tout. Ça représente environ 7% de notre chiffre d'affaires annuel. Les raisons sont simples, elles ont été énoncées déjà par Iban ou par Christelle, donc je ne vais pas en rajouter. Simplement, il faut bien voir qu'en ce moment, la monnaie locale, enfin en tout cas la relocalisation de l'économie est quelque chose qui est très à la mode. Il n'y a qu'à voir les publicités des banques, à la télévision, de plus en plus, on découvre que d'un seul coup, des banques, on n'aurait jamais imaginé ça, en fait, elles investissent essentiellement leur argent dans l'économie locale, ce qui est extraordinaire. Ça devient un élément marketing comme la consommation locale des produits l'a été. Nous, on est en avance là-dessus. On continue d'essayer de convaincre les personnes à Scopelli de se mettre au Moneco. L'un des arguments qu'on a également, c'est que sur les Moneco, nous n'avons pas de participation aux transactions, contrairement aux transactions en carte bleue. Et c'est malgré tout quelque chose d'intéressant qui nous fait économiser jusqu'à 5000 euros par an sur le chiffre d'affaires, ce qui est colossal. Voilà à peu près ce que je peux dire d'essentiel.
Merci Olivier pour cette présentation de Scopelli. Claire, je vais te donner maintenant la parole pour nous présenter la SARL Curieux.
Bonjour, donc je suis la gérante du Curieux Coffee Shop que vous retrouvez à Commerce, près des trams. Et nous sommes bureau de change pour Moneco depuis fin 2020, début 2021 je crois. Chez nous, comme disait Olivier précédemment, c'était une évidence qui correspond à l'élan dans lequel on s'était inscrit avec la société, de s'inscrire dans une volonté de transition écologique et sociale et de tout faire pour avancer de ce côté-là. Moneco vraiment nous semblait une évidence. On ne sait pas pourquoi tout le monde n'y est pas. Ça nous laisse interdite, mais voilà, on a commencé tout doucement. Je me souviens au début, le bureau de change, c'était des petites coupures. Les gens venaient chercher 20 euros et puis on les revoyait 2 mois après. Ils venaient de dépenser leur 20 Moneco. Et maintenant, on commence à prendre une ampleur assez incroyable. Pour nous, c'est très pratique parce qu'on peut réinvestir nos Moneco en l'utilisant chez nos fournisseurs, notamment au Bocal, qui travaille avec nous sur beaucoup de matières premières en biscuiterie et en farine, ce genre de choses. Et voilà, on est rentré dans ce cercle vertueux, et ça roule, et on est très contente. Donc on promeut le plus possible.
Merci Claire pour ta présentation. Iban, je voudrais te revenir vers toi et te poser une question. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus précisément comment se structure cette organisation de SCO? Vous êtes sous quelle identité? Est-ce que vous êtes une association? Et puis, autre question, cette définition, mais vous pouvez tous y répondre, nos invités. Qu'est-ce que ça veut dire local? Ça veut dire que concrètement, géographiquement, est-ce que c'est un territoire qui est restreint? Et Iban, encore, je te donne la parole en premier, au sens où, est-ce que vous, par exemple, le SCO circule à la fois sur le territoire basque français et espagnol, et bref, voilà, essayer de déterminer un petit peu ce que ça veut dire ce terme de local.
Ok, ben merci. Alors, au niveau de la structure, nous, on est depuis le début une association. Il y a beaucoup de gens qui pensent que des fois, on est une entreprise carrément ou d'autres formes, mais non, on est vraiment une association. Ça a commencé avec des bénévoles qui ont travaillé pendant 2 ans avant le lancement des premiers Neusco en circulation. Donc il y a vraiment un gros, gros travail préparatoire. Et très rapidement, il y a eu des salariés qui sont arrivés, donc avec des contrats aidés, pas à temps plein forcément, à temps partiel. Et puis après, petit à petit, les temps partiels sont devenus des temps pleins, il y a eu un deuxième contrat aidé, etc. Et ce qui fait qu'au bout de 10 ans, aujourd'hui, on est 10 salariés, presque tous à temps plein. Je crois qu'il doit y avoir juste un ou deux temps sur les 10. Et du coup, ça permet d'avoir quand même pas mal de ressources humaines pour développer le réseau des particuliers, le réseau des professionnels, les défis Euskara, la langue basque, je veux dire, et aussi mobiliser tout notre réseau d'associations, qui est quand même très important. Et on a toujours des bénévoles qui sont hyper importants dans la gestion de l'asso, puisque ben, le comité de pilotage, par exemple, qui est l'équivalent d'un conseil d'administration pour une entreprise, le comité de pilotage est constitué uniquement de bénévoles. Et on a en tout une cinquantaine de bénévoles qui nous aident, par exemple, sur nos événements, pour aller à la rencontre du public. Donc, c'est vraiment voilà, hyper important d'avoir ces bénévoles autour de nous qui nous aident et de les remercier très chaleureusement. Ensuite, au niveau du territoire et du qu'est-ce qu'on entend derrière local, bah, déjà au niveau, on va dire, légal et administratif de notre monnaie locale, le territoire d'application, c'est les communes qui sont situées sur la communauté d'agglomération Pays Basque, donc 158 communes, à peu près 300 000 habitants. Et donc ça, c'est le Pays Basque Nord qu'on appelle chez nous Iparralde. Et donc la question du passage au Sud, c'est une question qui revient souvent. C'est quelque chose qu'on avait prévu dès le début dans nos statuts, cette extension au Pays Basque Sud. Il y a juste un petit enjeu légal, puisque bah, les lois ne sont pas tout à fait les mêmes. Il n'y a pas la loi Hamon de l'autre côté pour encadrer les monnaies locales. Et aussi un petit obstacle au niveau des ressources humaines, parce que donc là, on est 10 salariés pour s'occuper d'une monnaie locale qui a donc 1300 pros et 4000 particuliers sur les 300 000 habitants. De l'autre côté, il y a 3 millions d'habitants donc au Pays Basque Sud, et une activité économique beaucoup plus forte. Par exemple, toute la région de Bilbao est très industrielle, le Pays Basque Sud est très riche aussi, et donc du coup, il faut pouvoir s'implanter sans se louper. Donc ça, c'est pas évident à faire. On a lancé une étude pour commencer par un système de crédit inter-entreprise, un système de barter. Et au final, les résultats de cette étude disent qu'il est peut-être plus intéressant de se lancer sur une expérimentation géographique restreinte, par exemple sur quelques communes, sur une petite zone géographique, pour voir comment l'UFCO prend. Donc ça permettrait d'y aller aussi à moindre frais, parce que voilà, s'installer, faire le passage au Sud sur une zone de 3 millions d'habitants avec une grosse activité économique, c'est un c'est un gros cap à franchir. On commence à l'envisager maintenant après 10 ans de développement sur le Pays Basque Nord. Mais voilà, il y a beaucoup de travail. J'espère que d'ici 5 ans, on pourra payer en EUSCO au moins dans quelques zones du Pays Basque Sud, mais c'est un travail de longue haleine.
D'accord, merci Iban. Toi Christelle, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus précisément comment ça se fait sur l'agglomération nantaise ?
Alors si le territoire de la Loire-Atlantique a été identifié plus pertinent, notamment par les professionnels qui échangent sur tout le territoire, tout le bassin de la Loire-Atlantique, nous parlons plus de bassin de vie et de groupes locaux en fait qui eux sont identifiés par les membres et qui font vivre en fait la monnaie locale au plus près. Du coup, alors après nous on n'est pas dans des objectifs de barter comme l'a signalé Iban, effectivement, parce que c'est la monnaie locale, c'est un lourd projet, et bien qu'effectivement on a la chance d'avoir des membres engagés qui font beaucoup pour faire vivre la monnaie locale, effectivement tous ces beaux projets sont très très énergivores.
Merci Olivier. Moi, je voudrais savoir un petit peu comment toi, personnellement, et comment Scopelli t'en est venu à connaître cette monnaie locale. Et tu as expliqué un petit peu vos motivations à utiliser ces monnaies locales. Mais concrètement, comment tu as pris connaissance et quelles ont été les discussions que vous avez eues entre vous à Scopelli pour utiliser cette monnaie locale ?
Alors, je n'aurai pas l'historique exact parce que moi, je ne suis à Scopelli et dans la région de Nantes que depuis 2 ans. Arrivant de mon 9-3. Mais simplement, Scopelli est bâti autour de 4 piliers importants qui sont un magasin bio. Donc nous, 98% de notre offre alimentaire est en bio. On n'a quasiment pas du tout de conventionnel. Zéro déchet, donc on a un maximum de vrac. Sans être dogmatique, donc quelqu'un qui veut acheter ses pâtes en sachet a le droit de le faire, hein, c'est pas, on va pas l'empêcher. Par contre, le jour où il a envie de passer sur quelque chose de différent, il peut le faire. Donc j'ai dit zéro déchet bio, éthique. Donc nous ne négocions pas les prix avec les producteurs, nous les négocions avec les grossistes puisque c'est le mode de fonctionnement d'un grossiste, mais pas avec les producteurs. Et ensuite, local. Donc 50% de nos produits qu'on vend au supermarché sont de Loire-Atlantique, 25% des départements limitrophes et 25% d'ailleurs. On a des casseroles qui viennent des Vosges, hein, puisque c'est la, enfin je vais pas citer la marque. Et par contre, on a des gourdes en métal qui viennent de Chine parce qu'on n'a pas trouvé mieux que ce qu'il y avait là. Donc nous, le local, c'est un leitmotiv effectivement, mais on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Si jamais ça n'existe pas, on ne le prend pas. Or, la monnaie locale, si elle n'avait pas existé, ben on ne l'aurait sans doute pas trouvée. Il s'avère qu'en l'occurrence, tous ces groupes qui travaillent en fait à une meilleure économie, donc sociale, solidaire, mais même à une meilleure consommation, à un moment, forcément, ils vont se croiser. Et c'est lors d'un de ces croisements qu'on en est arrivé à décider de faire les Monéco Escopelli. Et aujourd'hui, pour nous, c'est un truc très important. On est également comptoir de change. Alors, même s'il y a eu quelques soucis dernièrement, parce que chez nous, il y a une gestion un peu très très diversifié, donc ce qui nous a posé les soucis. Mais voilà, Monéco, et finalement, la monnaie est locale. Si jamais il y avait eu, je ne sais pas moi, des systèmes de chauffage, bah, l'électricité par exemple, nous sommes chez Enercoop. Donc Enercoop, on est aussi en électricité locale. Voilà, donc ça fait partie juste de la démarche globale.
D'accord, merci Olivier. Et toi Claire, alors du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à utiliser Monéco à Curieux Coffee Shop?
Moi, chez nous, c'est toujours pareil, c'est les clients qui viennent chez nous et qui nous disent « Tiens, j'ai pensé à toi !» et donc, nos clients sont arrivés. On connaissait les ancêtres de Monéco, on avait croisé Sonante à l'époque, mais c'était une époque où moi, j'étais employé et où la direction souhaitait pas se lancer. Quand j'ai repris le café et que Monéco est arrivé, c'était l'aubaine aussi, parce que ça correspondait à ce qu'on voulait. Chez nous, on travaille pas en bio, on essaye de plutôt travailler en local. Après, c'est vrai que c'est toujours... on essaye de trouver le mieux, quelle que soit la forme, on n'est pas bloqué non plus. Quand on est un coffee shop, on a des cafés qui viennent des quatre coins du monde. On ne peut pas se permettre de dire on va tout faire en local, parce que votre café éthiopien, ça va être compliqué de vous le trouver. Mais on essaye de faire le plus propre possible. On travaille avec des torréfacteurs qui bossent en circuit court. Et on promeut des projets comme Monéco, comme le Zéro Gâchis. On travaille avec beaucoup d'associations solidaires, avec le Carillon, avec la Cloche. On est très investis côté solidarité. Et donc Monéco nous permettait d'avoir le solidaire et l'économie solidaire.
Merci Claire. Agnès, toi, en tant qu'utilisatrice, est-ce que tu peux nous expliquer un peu tes motivations et comment tu l'utilises au quotidien, cette monnaie locale nantaise ?
Oui, alors moi je suis entrée voir Monéco tout simplement parce que je trouvais que c'était logique d'avoir une monnaie locale et que c'était intéressant pour tous les circuits locaux. Et la difficulté que j'ai rencontrée vraiment au début, c'est de trouver des producteurs de proximité sans aller très très loin pour faire mes courses. Alors à côté de chez moi, il y avait une épicerie où je pouvais acheter en Monéco. Donc c'était bien. Et ben, après le Covid, tout ça, elle a fermé. Donc c'était un peu plus compliqué pour les cafés. Et les restaurants, j'essaie de choisir des cafés, des restaurants qui ont des Monéco. Et puis, je me suis intéressée à Scopelli en septembre, la journée de la porte ouverte. C'est pas très original, mais...
C'est fait pour ça.
Voilà. Et d'autant plus que quand j'ai vu que je pouvais payer en Monéco. Là, j'étais vraiment très contente. Mais après, c'est toujours un petit peu une problématique. Même s'il y a une grande liste, eh ben, il faut regarder géographiquement où est-ce qu'on peut aller, avec qui on peut travailler. Après, on s'habitue, bien sûr, on a des références. Mais ça, je dirais que c'est peut-être le premier frein pour accéder à la monnaie locale. Après, c'est très facile, hein, il y a une application sur le téléphone. C'est vraiment très facile d'utilisation. Et moi, j'utilise pas les coupons. J'utilise que la version numérique. Et ce serait bien, on s'était dit, de développer aussi la monnaie locale avec Attac, par exemple, pour les adhésions. Mais c'est pas très facile à faire. On a l'idée. Maintenant, il faut la concrétiser et essayer effectivement de faire en sorte que ça se développe le plus possible. Et ma question, Christelle, c'était combien de producteurs, combien de... Vous en êtes où un petit peu à Monaco de ce côté-là?
Aujourd'hui, il y a à peu près 200 professionnels dans le réseau. Alors effectivement, la monnaie circule beaucoup plus dans le centre de Nantes, mais qui est liée à l'histoire de Monaco. Effectivement, c'est la fusion de deux monnaies locales qui existaient déjà sur le territoire. Ce Nantes, qui circulait uniquement dans le centre de Nantes, et le réseau du réel dans le pays de Réa. Donc, de par cette histoire, aujourd'hui, Monaco circule avant tout sur ses bassins de vie. Et effectivement, à travers donc 200 professionnels, aujourd'hui avec un panel d'activités assez varié, nous retrouvons de nombreux bars et restaurants, des épiceries de proximité, mais également des imprimeries, des comptables, de nombreux professionnels du bien-être. Donc on commence à avoir un panel intéressant qui effectivement favorise la remise en circulation des Monéco.
Et du coup, j'ai quelques billets, c'est vrai, tout le monde se battrait. Oui, c'est fou ce qu'on fait pour t'avoir, sacré dollar, ça me fait rigoler. J'aime mieux chanter avec ma guitare, tant pis pour ce sacré dollar, eh oui, tant pis pour ce sacré dollar.
Elle m'avait promis de m'aimer, même à moitié fauchée, mais d'autres avaient ce que moi je n'ai pas, et quand brille la monnaie, c'est vrai.
L'amour doit faire ses paquets. Oui, c'est fou ce qu'on fait pour t'avoir, sacré dollar, ça me fait rigoler. J'aime mieux chanter avec ma guitare, tant pis pour ce sacré dollar, eh oui, tant pis pour ce sacré dollar.
Pour moi, le seul vrai bonheur est au fond de mon cœur. Si l'on croit que je n'ai rien, j'ai mes copains, et pour eux je donnerai, c'est vrai,
le monde entier sans regret. Malgré tout, tu n'as pas pu m'avoir, sacré dollar, j'ai gardé ma guitare. Je fais des chansons avec l'horizon, et si je les chante au hasard, eh oui, c'est pas pour toi, sacré dollar.
Pour ce petit bout de papier, qui peut tout acheter, je vois faire autour de moi n'importe quoi pour toucher quelques billets, c'est vrai, tout le monde se battrait.
Oui, c'est fou ce qu'on fait pour t'avoir, sacré dollar, ça me fait rigoler. J'aime mieux chanter avec ma guitare, tant pis pour ce sacré dollar, eh oui, tant pis pour ce sacré dollar, tant pis pour ce sacré dollar, eh oui, tant pis pour ce sacré dollar.
Iban, je me retourne vers toi. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus précisément, concrètement, comment ça se passe pour créer une monnaie locale? Vers quelles institutions se tourne-t-on? Et quelle reconnaissance légale cette monnaie locale suppose-t-elle?
Je ne vais pas pouvoir répondre à toute la question, parce que moi, je m'occupe juste de la com et je n'étais pas forcément là à l'époque de la création. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'avant de créer une monnaie locale, il faut faire le tour de son territoire, de tous les réseaux qu'on a sur le territoire, alors que ce soit les réseaux associatifs, militants, les réseaux de chefs d'entreprise, les réseaux d'entrepreneurs, et aussi les réseaux des institutions. Il faut aller rencontrer un petit peu toutes les parties prenantes, parce que c'est un projet de territoire, en fait, et ça peut pas se faire juste avec un cercle d'une vingtaine de personnes. Il faut vraiment aller convaincre toutes les parties prenantes du territoire que c'est un projet utile et qui mérite que tout le monde s'y intéresse. Et c'est ce qui a été fait, en fait, localement ici. Alors, c'est sûr qu'on a eu la chance de pouvoir s'appuyer sur un réseau associatif déjà très dense, très maillé, avec beaucoup de réseaux, beaucoup d'associations qui se connaissaient déjà, qui partageaient les mêmes valeurs. Un petit peu tout le milieu d'art alternatif du Pays Basque, ça a été un petit peu le socle de création de la monnaie locale, mais il a fallu aussi mettre d'autres parties prenantes autour de la table qui n'avaient pas forcément l'habitude de, eh bien, de se rencontrer. Donc, c'est les chefs d'entreprise, c'est certains élus, certains, voilà, des personnes qui travaillent dans les collectivités locales et qui ont été partie prenante de ce projet. Il y a eu quand même une phase préparatoire avec des réunions publiques qui ont permis de vulgariser un petit peu ce concept de monnaie locale, de présenter le projet et aussi de le faire évoluer, en fait, parce que vu que c'est un projet de territoire, les gens sont parties prenantes et peuvent faire évoluer ce projet-là. Et il y a eu notamment une grande campagne qui a permis de socialiser ce projet, c'est le choix du nom. Il y a une grande campagne participative où on a demandé un petit peu à tous les habitants du Pays Basque de choisir le nom de leur prochaine monnaie locale. Et ça a fait un énorme gain de notoriété. Et ça a permis, en fait, de mettre ce projet sur la table et d'en parler à tout le monde à travers le choix du nom. Et donc ça nous a beaucoup rendu service pour avoir un lancement un petit peu plus réussi. Parce que le but aussi, c'était, avant même le lancement, de déjà constituer un réseau de particuliers qui puissent, dès le lancement, changer des euros en Eushko, et surtout de professionnels qui puissent accepter ces Eushko pour dire « Regardez, dès le lancement, c'est déjà une monnaie qui est utilisable largement. » Et du coup, il y avait 300-400 particuliers et une centaine de professionnels dès le premier jour. Et ce qui a permis, en fait, de faire d'abord, de commencer avec une monnaie qui était utilisable et qui était un petit peu une monnaie qui donnait une impression de succès dès le lancement. Et là-dessus, en fait, c'est beaucoup plus facile de continuer, de poursuivre la dynamique quand on a un lancement réussi quelque part qui donne envie.
Et est-ce que sur l'aspect plus institutionnel, est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu ou toi peut-être Christelle qui participe au développement de Monéco, est-ce que l'un de vous deux vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne au niveau institutionnel?
Après moi je veux bien compléter effectivement. Là, ça a été tout le travail qui a été fait, notamment par le mouvement Sol, de permettre aux institutions de s'approprier ce sujet, hein, et notamment avec Marie Farr, qui a édité de nombreux rapports pour comprendre les différents enjeux et l'intérêt des collectivités de prendre part. Nous, à Nantes, nous avons la ville de Nantes et Nantes Métropole qui soutient le projet, et qui sont partenaires solidaires, un partenariat indispensable pour favoriser le salariat notamment. C'est un projet complexe qui nécessite effectivement de se professionnaliser et bien qu'effectivement toutes les monnaies locales bénéficient d'une forte mobilisation des bénévoles. Effectivement, le partenariat des institutions accompagne les projets de manière notoire.
Merci pour ces différentes explications qui nous permettent de mieux comprendre le fonctionnement et l'utilisation des monnaies locales. Nous venons d'écouter la chanson « Sacré dollar » interprétée par le groupe Les Missiles et Christelle nous a parlé du mouvement Sol que nous retrouverons dans un instant avec Michael, en même temps que d'autres organisations de la finance solidaire, dans la dernière partie de cette émission. Maintenant, nous allons entendre Martial à propos d'une autre initiative, la Juve, qui est une monnaie libre. Et pour mieux comprendre ce qu'est une monnaie libre, voici quelques éléments complémentaires à la présentation de Martial. La monnaie libre n'a pas de barrière géographique, donc elle peut être diffusée sur tout le territoire. Elle n'est pas reconnue légalement par la loi de l'ESS 2014, donc c'est donc une initiative privée. Pas de barrière géographique, pas de reconnaissance légale. Elle n'est pas non plus indexée à l'euro. Et sa particularité est qu'elle crédite les utilisateurs, appelés humains, par un dividende universel, ce qui représente une quantité de monnaie qui est versée aux utilisateurs, utilisatrices. On écoute Martial et Manon nous parler de la monnaie libre June.
Je suis avec Martial, qui
qui est utilisateur de la monnaie libre June et investit localement pour son développement. Donc Martial, est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots ce qu'est la monnaie June ?
Oui, donc la monnaie June, June monnaie libre, c'est une monnaie qui est basée sur l'humain à la base. Donc en fait, l'idée c'est que la monnaie est créée par les êtres humains à part égale, contrairement aux monnaies banques qui sont créées donc par les banques en fonction de leurs propres intérêts. La monnaie libre, elle, est créée par les humains et donc c'est cette création à égalité pour tous qui fait comme une sorte de petit revenu de base, mais bon, ce n'est pas un revenu de suffisance, c'est juste une base de création monétaire. Et ensuite, on échange on utilise cette monnaie pour échanger comme n'importe quelle autre monnaie. Donc, vraiment, l'idée de base, c'est qu'on soit tous à égalité face à la création monétaire, que cette création monétaire ne soit pas l'apanage des banques qui obligent à avoir des projets rentables et donc une croissance qui oblige à être compétitif, qui oblige à, qui entraîne forcément des compétitions, des faillites et des choses comme ça, et qui entraîne aussi beaucoup d'inégalités entre les humains, puisque les humains les plus aisés ont plus facilement accès au crédit que les humains les plus précaires. Et donc la création monétaire est forcément faite pour les humains les plus riches. Alors qu'avec la monnaie libre, la monnaie, elle est créée à égalité entre tous les êtres humains, quelle que soit leur condition.
Super. Et du coup, qui décide de la création de cette monnaie ? Est-ce qu'il y a un collectif qui existe et du coup qui se réunit pour décider démocratiquement de ce que va devenir et de comment doit croître cette monnaie ?
Quand on veut utiliser la monnaie libre, en fait, il suffit de créer un compte et on peut tout de suite l'utiliser. Donc on va sur l'application Cesium, on va sur le site cesium.app et on télécharge l'application correspondant à son matériel. Et ensuite, on rencontre les autres personnes, surtout en utilisant le forum, forummonnaielibre.fr, on peut retrouver les autres personnes. Sur le forummonnaielibre.fr, vous trouverez aussi tous les groupes Telegram et Discord, Discourse et autres, Mastodonte et autres canaux de diffusion pour connaître les rencontres. On se rencontre et quand on se connaît bien, et ben on arrive à être certifié par les autres êtres humains. Parce qu'en fait, la base qu'on a choisie pour identifier un être humain, ce n'est pas une carte d'identité ou une carte vitale ou autre chose, ou des papiers quelconques, c'est le fait de rencontrer les autres êtres humains. Donc il faut rencontrer les autres humains qui sont déjà membres de la monnaie libre, membres de la toile de confiance, pour devenir soi-même, à son tour, membre de cette toile de confiance.
Et du coup, si j'ai bien compris aussi, la différence avec une monnaie locale, c'est que non seulement c'est pas local, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus décentralisé et c'est un peu réparti sur le territoire. Et la deuxième, c'est que c'est pas indexé sur l'euro, c'est bien ça ? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Oui, alors ce n'est absolument pas du tout indexé sur l'euro, c'est indexé sur la vie d'un être humain, puisque l'idée, c'est qu'un être humain, en une demi-vie, va créer sa part de monnaie. Donc il faudra une demi-vie pour créer sa part, environ 40 ans. Et surtout, ce n'est pas local non plus, puisqu'en fait, c'est la monnaie libre ne connaît pas de frontières. Donc on en trouve un peu partout. Alors c'est vrai que c'est beaucoup en France, puisque c'est une idée francophone à la base. Donc ça s'est beaucoup diffusé dans la francophonie, et ça se diffuse aussi du côté de l'Espagne. Et donc on voit du coup apparaître des comptes aussi en Amérique latine, etc.
Voilà. Ok, merci. Et du coup, si on veut trouver plus d'infos sur cette monnaie, où est-ce qu'on peut aller ?
Eh bien, sur le site monnaielibre.fr. Et sur le forum, forummonnaielibre.fr, c'est là qu'on trouve toutes les informations sur cette monnaie.
Ok, merci beaucoup Martial.
Bonjour, moi je vais vous parler donc des cigales. Les cigales, des petites bêtes atypiques qui sont du coup des citoyens. En fait, c'est un groupe de citoyens, une cigale. Un groupe de citoyens qui met un peu d'épargne de côté tous les mois pendant 5 ans. Et cet argent, ils vont collectivement, ces citoyens, décider de l'attribuer à des entreprises du territoire et qui ont une visée sociale, environnementale ou culturelle. Ces citoyens, du coup, vont à la fois financer et accompagner des structures avec cette visée sociale que nous, on appelle des structures solidaires pendant 5 ans. L'objectif, c'est à la fois pour ces citoyens de redonner du sens à leur argent, mais aussi de s'approprier leur argent et de l'investir et de soutenir des entreprises dits territoires. Donc, on s'inscrit vraiment, d'où le mouvement des Cigales, dans un circuit de la finance solidaire. Et on s'inscrit depuis 40 ans, puisque cette année, on fête les 40 ans du mouvement. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on retrouve, nous, sur les Pays de la Loire, 35 Cigales. Ça représente près de 500 citoyens. Ces 35 Cigales ont soutenu, par exemple, l'année dernière, une quarantaine de projets et ont, grâce à plus de 140 000 euros d'épargne donc personnelle dans ces projets. Et du coup, comment ces citoyens fonctionnent aujourd'hui? On est regroupés sous forme d'une fédération nationale et on est du coup, après, ensuite, il y a des associations régionales. Et donc là, mon rôle, il arrive ici. Donc, moi, du coup, Elodie Landa, je suis coordinatrice, on va dire, régionale. Donc, mon objectif est de développer, mais aussi d'animer le réseau de ces 35 Cigales, puisque du coup, nous, vraiment, le mouvement des Cigales, on est ancré dans l'éducation populaire en se disant que c'est accessible à toutes et à tous. Il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances et de compétences particulières en économie et en finance. Donc voilà, mon rôle est bien, si les citoyens, quand ils s'impliquent dans le mouvement, ils ont besoin d'informations, voilà, ils peuvent venir les chercher auprès de l'association régionale. Du coup, des projets, alors les citoyens vont donc choisir collectivement des projets. Et donc aujourd'hui, nous, on a à peu près la moitié des projets à 50% qui sont du champ à l'assiette. Donc, on a des projets comme sur le vignoble nantais, on a beaucoup de projets dans l'agriculture, des maraîchers. On a également des producteurs de fromage de chèvre biologique. Donc, on a aussi des épiceries vrac. Donc ça, on a beaucoup de projets dans l'alimentation. On a aussi des projets dans la culture, par exemple, je peux vous donner des exemples comme la Cabane Bleue, qui est une édition indépendante pour la jeunesse et justement sur les questions de transition écologique. On a d'autres projets qui sont peut-être des plus gros projets qui sont dans le logement intergénérationnel comme Akupa qui a été soutenu aussi par les Cigales sur Nantes Métropole ou Titi Fleuris, à la création de Titi Fleuris aussi il y a eu des Cigales qui est du coup plutôt une coopérative qui vise la mobilité et en insérant des personnes en situation de handicap. On a des projets qui sont très variés et en fait qui l'objet numéro un, c'est vraiment qu'ils aient vraiment qui développent le territoire et c'est vraiment des projets de proximité qui après du coup ont une visée sociale, environnementale, culturelle. Mais voilà, le premier lieu, c'est vraiment de se dire on habite sur le territoire, on finance des projets du territoire. Donc, nous, on est bien une association, la fédération est bien une association. Par contre, une Cigale est un groupe de citoyens sous forme d'une indivision financière. Et c'est vraiment, ils sont indépendants. C'est-à-dire que chaque personne va signer la charte des Cigales, donc respecter les valeurs du mouvement. Mais par contre, le groupe, lui, va complètement être indépendant. Donc, ils vont mettre en commun leur argent et ils vont choisir collectivement de l'attribuer à des projets solidaires. Mais du coup, c'est vraiment de façon indépendante et l'argent ne transite pas du tout par l'association régionale. C'est leur argent et du coup, ils attribuent leur argent mis en commun à des projets. Souvent, quand on vient nous voir, c'est que soit on a entendu quelqu'un qui faisait partie d'une Cigale ou soit on a rencontré une entreprise qui a reçu un financement des Cigales. Et donc, le plus simple, c'est aujourd'hui de contacter l'association régionale puisque du coup, j'ai une vision de toutes les démarches de création qui sont en cours ou des Cigales qui peuvent encore accepter de nouvelles personnes dans leur groupe puisque un groupe, c'est maximum 20 personnes. Donc, au-delà, il faut créer une autre Cigale. Et aujourd'hui, plus il y a de Cigales, plus il y a de projets financés. Donc, et il y a des projets qui ont besoin de financement pour se lancer, donc on essaie de créer des Cigales sur tout le territoire. Je vais vous redonner, il y a une adresse mail, mais du coup il y a un site internet où vous avez à la fois le descriptif de ce que font les Cigales. Il y a aussi une partie côté porteur de projet, parce qu'il y a des porteurs de projet du coup qui nous contactent justement pour recevoir et avoir des financements. Et vous trouverez à la fois toutes les Cigales qui sont géolocalisées sur une carte pour savoir où elles sont sur la région et à la fois toutes les entreprises qui ont déjà été soutenues par les Cigales. Donc voilà, ça vous donne aussi une idée du type de projet qui ont été soutenus près de chez vous.
Hey les mecs, je fais un rêve, c'est... J'ai rêvé que j'ai plus de travail. Une fois de plus, c'est Ned Marron qui vient vous parler. Non, dis-moi qui a dit que l'argent ne faisait pas le bonheur. Dis-moi qui a dit que l'on pouvait vivre d'amour et d'eau fraîche. Mais laisse-moi rire. Beaucoup de gens osent dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Que de l'amour et de l'eau fraîche suffit pour égayer leur cœur. À ces gens-là, je leur réponds de se réveiller car il est l'heure. Tout le monde sait que sans argent, tu subis le pire des malheurs. Parce que c'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. C'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Nous vivons dans une société où l'argent est roi. Et dans ce pays, si t'as pas caillé, c'est comme si tu n'existais pas. Voilà pourquoi certaines personnes sont prêtes à faire n'importe quoi pour obtenir quelques bouts de feuilles que l'on appelle genre A. Certaines donnent leurs fesses pour avoir quelques pièces. D'autres font la mendicité pendant plusieurs heures d'affilée pour qu'à la fin de la journée, ils puissent acheter de quoi manger. D'autres préfèrent aller pétard ou aller faire des cages droits. C'est soit ça, ou soit devenir clochard. C'est soit ça, ou soit devenir clochard. Parce que c'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. C'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Benji, Benji, prends le Mikey, madame, Mikey, madame, non, je ne viens pas d'Olrie, seulement DJ, être à lui parler de ce fléau qu'on appelle la monnaie, cette chose pourrie, les esprits, puis petit à petit, voilà que la déprime sévit sans répit. Mais dit, pas de panique, même si la situation est critique, pas de madame, mathématiques, si t'as pas de patrick, tout s'explique. L'argent a pris le monopole dans la société, plus personne ne peut l'arrêter, plus personne ne peut le contrôler, plus moyen de survivre. Tu n'as plus de fric, ta vie est en jeu, tu es pris de panique. En effet, c'est la panique, c'est dans ton porte-monnaie. Tu n'as plus de fric, tu ne peux plus satisfaire tes envies. Pour toi, la vie est finie. Tire-toi une balle dans le crâne et arrache-toi au paradis. Wouille, arrache-toi au paradis. Parce que c'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. C'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire.
L'argent est partout, à tous les coins de rue, dans tous les esprits, mais dans les poches, y'a rien. De crise monétaire de nos jours. Les politiciens, certains sont corrompus, d'autres deal avec le malin. L'argent se fait si rare que dans le ghetto, des gens meurent de faim. La jeunesse est marginalisée pour s'en procurer tout est bien. Donc au fond du business pour subvenir à leurs besoins. Faut pas leur en vouloir parce que si t'as pas de caillasse, t'es en chien. Tout le monde sait que sans argent tu n'es rien.
Parce que c'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. C'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire.
Après Martial et la monnaie libre, nous avons entendu Elodie vous parler des cigales, suivie par une chanson de Nec Marron, La monnaie, tout à fait dans notre thème. La suite maintenant avec Aurélie et la nef.
Donc je m'appelle Aurélie Chabot, je suis animatrice vie coopérative pour la nef. La nef, c'est une coopérative de finance éthique qui a été créée il y a un peu plus de 35 ans dans un objectif de projet sociétal, c'est-à-dire comment créer un outil financier qui finance une société juste et respectueuse de l'humain, en fait, et de l'environnement. Donc aujourd'hui, comment ça se matérialise ? Eh ben, sous forme d'une coopérative bancaire qui propose des solutions d'épargne et de l'autre côté, des solutions de crédit pour financer des projets à plus-value sociale, environnementale et culturelle. Et donc ça s'adresse donc aux particuliers comme aux professionnels de toute la France.
Quelle est la différence entre la nef, banque éthique, et les autres banques ?
Alors la nef est une coopérative, donc ça c'est pas forcément un facteur différenciant dans le sens où il y a d'autres coopératives bancaires en France, le Crédit Mutuel, le Crédit Agricole par exemple, mais on a du coup donc c'est cette coopérative a pour particularité déjà d'avoir une démocratie directe, donc ça c'est une des particularités. La deuxième particularité, c'est la transparence, c'est-à-dire qu'on est la seule banque en France aujourd'hui qui, du coup, est totalement transparente sur l'usage qu'elle fait de l'argent qu'elle collecte. Le sens éthique de la nef, c'est l'usage qu'elle va faire de l'argent qu'elle reçoit. Donc le côté éthique, la différence, c'est ces fameux projets que l'on finance qui sont à plus-value, du coup, comme je disais, social, environnemental et culturel uniquement. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, les autres facteurs différenciants par rapport du coup aux autres structures bancaires, c'est la totale transparence sur les projets qui sont financés et l'usage que l'on fait surtout de l'argent qui est collecté. L'autre différence, c'est aussi le côté démocratie directe, puisqu'en fait, les sociétaires de la NEF votent en direct à l'Assemblée générale. Après, concrètement, pour le client, quelle est la différence? Aujourd'hui, la NEF est une banque dans le sens où elle, c'est l'épargne qui est collectée qui sert à financer les projets. Donc ça, c'est vraiment le principe même de la banque. Après, est-ce que c'est une banque de plein exercice? Aujourd'hui, pas totalement, puisque c'est une banque qui est principalement une banque d'épargne pour les particuliers et une banque de crédit pour les professionnels. On n'a pas encore, par exemple, le compte courant. Donc, quand on vient à la NEF, c'est avant tout pour donner du sens à son argent, c'est-à-dire faire en sorte que son épargne serve pas à n'importe quoi, mais à des projets vertueux. Ça, c'est la première chose. Donc voilà. Et après, une autre particularité aussi qui est très importante, c'est le circuit court de l'argent. Et le circuit court de l'argent, c'est-à-dire que c'est vraiment l'épargne qui est collectée qui finance les projets derrière. On n'a pas de fonctionnement spéculatif sur les marchés financiers. On ne va pas sur les marchés financiers. Et ce qui fait que ça a d'un côté donc l'avantage, c'est-à-dire qu'on est sûr de l'économie réelle, ça fait une stabilité de l'entreprise, mais de l'autre côté, on ne peut pas bénéficier des évolutions de taux ou des avantages proposés par exemple par la Banque européenne. On n'est pas conventionné avec l'État, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des taux d'intérêt qui peuvent paraître bas par rapport au marché, quoi. Mais ça, c'est vraiment lié au circuit court.
Est-ce que tout le monde, tous les citoyens peuvent venir à la NEF? Tu as dit tout à l'heure, on n'a pas de compte courant. Cela veut dire quoi concrètement? Vous ne recevez que des professionnels?
En fait, on reçoit à la fois des particuliers et des professionnels. Alors c'est vrai que 90% aujourd'hui de l'épargne collectée vient des particuliers. Et 99% des emprunts que l'on fait sont proposés à des professionnels. Mais n'empêche qu'on a des solutions d'épargne et des solutions de crédit pour les particuliers comme pour les professionnels. Et donc concrètement, on n'a pas de compte courant pour les particuliers. Mais pour les particuliers, ça veut dire un livret, la possibilité de bénéficier d'un livret. C'est la possibilité de bénéficier d'un compte à terme, donc une somme d'argent qui est bloquée en fait sur la durée définie par l'épargnant et qui est rémunérée en fonction de la durée de placement. Donc ça se matérialise principalement sur ces produits-là, et on propose aussi un compte courant pour les professionnels.
Merci Aurélie. Christelle nous a parlé du mouvement sol tout à l'heure, alors nous laissons la parole à Michael qui nous explique ce qu'est le mouvement sol.
Nous, du coup, le mouvement sol, on prend nos racines un petit peu au moment du passage entre le franc et l'euro en 99. On commence à se dire, moi j'y étais pas à l'époque, mais un petit collectif, disons, de personnes à tendance philosophe. commence un petit peu à se dire peut-être qu'on va perdre de la souveraineté monétaire entre le passage du franc à l'euro. Donc peut-être que ce serait l'occasion de réfléchir à un franc complémentaire, qui serait une monnaie nationale complémentaire à celle de l'euro. Mais difficile de mettre ça en place en 99-2000. Du coup, en 2003, on se structure. 2004, on obtient un appel à projet européen, un fonds Equal, qui nous donne de l'argent pour commencer à faire des expérimentations monétaires sur le territoire national. Et donc là, le mouvement sol, il est officiellement à cette époque, en 2004, un laboratoire d'expérimentation monétaire, où on essaye une solution nationale qui s'appelle le sol, une monnaie nationale. Qui a vocation à être complémentaire. Et du coup, l'idée, c'est de re-questionner un petit peu ben, qu'est-ce qui compte et qu'est-ce qu'on compte. Je veux dire, qu'est-ce qui compte en termes de valeur et qu'est-ce qu'on valorise en termes comptables. Et donc, on se pose toutes ces questions-là. Du coup, très vite, on essaye également des expérimentations monétaires aussi au niveau local. Voilà, d'autres basées sur l'engagement citoyen dans le monde associatif et dans l'utilité sociale. Bon, enfin, je vous passe un peu tous les détails parce que c'est une histoire qui est longue, le mouvement Sol, ça a 20 ans. Plus de 20 ans, pardon. Voilà. Donc, beaucoup de choses qui ont été déployées. Et puis, jusqu'en 2008-2010, on commence à se stabiliser un petit peu sur une forme un petit peu arrêtée des monnaies locales complémentaires. Enfin, une forme un petit peu arrêtée des monnaies qu'on appelle du coup monnaie locale complémentaire, avec la première monnaie qui apparaît en 2010. Alors, le mouvement Sol est peut-être un peu à l'initiative du contexte qui a favorisé l'émergence de ces monnaies-là, mais on n'est pas fondateur des premières monnaies locales en tant que telles. Mais par contre, très vite, on comprend que c'est une forme stabilisée de monnaie locale et que potentiellement, il y a des perspectives d'avenir qui commencent à se dessiner à partir de là. Et entre 2010 et 2023, du coup, le mouvement Sol prend petit à petit un petit peu le rôle, la fonction d'une fédération de ces monnaies locales qui apparaissent sur le territoire national. Ben, du coup, nous, l'idée, c'est aussi de se dire comment on fait pour que la discussion et la relation inter-MLC, comme on l'appelle, passe au-dessus de ces frontières économiques pour qu'il puisse y avoir une bonne entente et pour qu'on puisse avoir un mouvement. Et donc, là, le mouvement Sol change de nom. Ça s'appelait désormais le mouvement Sol. Avant, c'était juste Association Sol. Et donc là, maintenant, on prend l'apparence d'un mouvement pour accompagner en fait cette dynamique-là. Donc ça, c'est un peu l'histoire, très très rapidement. Et donc aujourd'hui, le mouvement Sol, on a plusieurs axes, plusieurs actions, plusieurs axes stratégiques. Donc on représente, nous, ce mouvement des monnaies locales nationales devant les pouvoirs publics, devant le Parlement, devant les grandes organisations de l'économie sociale et solidaire au niveau national. Donc, représentation institutionnelle et politique. On accompagne ces monnaies locales, soit par des dispositifs d'accompagnement, soit par des temps d'accompagnement plus ponctuels. Voilà, structuration interne, modèle économique, relations partenariales sur le territoire, ancrage local. Voilà. Le mouvement Sol fait lui-même partie d'un écosystème d'acteurs nationaux qui œuvrent pour les monnaies locales, un institut de formation pour les monnaies locales, une fédération d'acteurs qui œuvrent pour le numérique, c'est-à-dire pour le numérique dans les monnaies locales. On les accompagne pour déployer des solutions logicielles, parce que gérer une monnaie au niveau local, c'est pas si simple en fait, ça demande quand même certaines compétences, certains outils. Donc on accompagne aussi à cette structuration interne, cette structuration en termes de gestion des flux, gestion des adhérents, gestion des cotisations, gestion de tout un tas de choses. On a encore notre axe laboratoire d'expérimentation monétaire, donc plutôt un axe recherche-action et intellectuel, je dirais, qui s'exprime aujourd'hui par le conseil scientifique du mouvement Sol. Voilà, donc on n'a pas perdu notre essence originelle des années 99, on continue de réfléchir à différents sujets de société relatifs à la monnaie via notre conseil scientifique. Enfin, voilà, grosso modo, un petit peu le mouvement Sol.
Dans l'ordre d'intervention, nous avons écouté Iban, Christelle, Olivier, Claire, Martial, Elodie, Aurélie et Michael pour le mouvement Sol. Nous avons fait un petit tour dans l'univers des monnaies locales et libres. Et nous vous remercions de nous avoir accompagnés.
Nous sommes là, nous serons là. On l'a été pour contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et on le sera contre le projet d'Amazon. Merci.
Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même et partout la révolte gronde.
Autre monde, autre monde, autre zone. Un écho des luttes à retrouver tous les deux mois sur Jet FM.
On n'avait pas la CBA papa, SDF chômeur ouvrier,
Une émission proposée par Attaque 44 pour mieux comprendre les luttes du local à l'international.
C'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien.
Autre monde,
autre monde, autre zone.